des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
Vous écoutez
Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Bon, on a toute une discussion sur le définancement de la police et aussi sur son désarmement. Ça fait déjà quelques mois que ça dure, surtout depuis qu'on a assisté bien impuissant au mouvement Black Lives Matter avec la mort de George Floyd. Différents groupes militants qui sont un peu sortis pour dire que bon, il fallait repenser la police, que la police, comment ça fonctionnait en ce moment, ça ne fonctionnait pas, que le fait qu'on ait toujours plus d'armes dans la police, une police très, très interventionnelle, très, très répressive aussi. C'était peut-être pas la bonne façon de faire de la police en 2021. Y a des gens qui trouvent que ça fait du sens. Y en a d'autres qui trouvent que c'est un peu trop se mettre des lunettes roses que de penser avoir une police comme ça. Projet Montréal tenait son congrès et il a été question de désarmer une partie des policiers du SPVM. Et là, j'insiste vraiment pour le dire parce qu'on a pu entendre tantôt avec Benoît Dutrisac, la mairesse Plante, qui disait que, bon, ce serait dans un contexte communautaire. Là, c'est-à-dire les policiers qui sont appelés à intervenir plus en prévention dans certains domaines, c'est-à-dire, je sais pas moi, elle disait les écoles, elle disait les lieux de culte. Si ça vous intéresse, là, vous pouvez aller l'écouter, l'entrevue de Benoît avec la mairesse Plante sur le site de Cube ou l'application. Mais toujours est-il que c'est dans l'air et que ça discute. Et comme à chaque fois qu'on discute de ça, ben ça fait pas l'unanimité. On est avec Alain Babineau, qui est agent retraité de la GRC, consultant aussi en matière de profilage racial et sécurité publique. Monsieur Babineau, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va très bien, merci d'être là. Bon, quand on parle de désarmer une partie de la police, même si c'est seulement une partie très spécifique de la police, là, la mairesse Plante a beaucoup insisté pour dire qu'il n'était pas question de désarmer les policiers là, globalement du SPVM, ça suscite quand même certaines inquiétudes par rapport à la sécurité.
Ben, définitivement. Écoutez, je regarde le l'article ce matin là, dans le journal local et puis qui dit Projet Montréal prêt à désarmer une partie de la police. Les gens vont pas plus loin, ils regardent ça puis immédiatement là, c'est comment est-ce que ça va affecter la sécurité publique?
Ben oui, c'est normal. Moi je m'imagine une police sans gonne puis je me dis mais mon Dieu, c'est parce qu'on s'entend qu'il y a des situations qui dégénèrent puis même quand tu es dans un contexte de prévention, quand tu fais du travail de police, ça se peut qu'à un moment donné les choses dégénèrent un peu, ça escalade et tu as besoin dans ma tête là, tu as besoin de ton arme de service, mais peut-être que je me trompe, peut-être que les policiers peuvent agir sans leur arme puis que d'autres façons de faire.
Ben, c'est parce qu'il y a différentes approches ici, OK, pour de ceux qui demandent justement le désarmement des policiers. Ils font souvent référence à qu'est-ce qui se passe en Europe, dans certains pays, etc.
En Grande-Bretagne?
En Grande-Bretagne, dans certains cas. Mais encore une fois, je pense qu'on est en Amérique du Nord quand même, là. OK, je sais que souvent on va voir les influences européennes et tout ça, mais on est en Amérique du Nord et puis le contexte ici est totalement différent. Au niveau de la criminalité, c'est la même chose. Le contexte est différent. Alors, faut vraiment vivre dans notre réalité. Alors, oui, il existe même partout au pays certaines unités de police. Je vais mentionner dans certains unités dans les écoles, par exemple, ou des c'est sûr que c'est pas nécessaire d'avoir, puis ça devrait pas avoir un policier armé dans les écoles si le but du policier est justement être un modèle ou être une personne ressource pour les étudiants, etc. Mais encore une fois, je pense que c'est plutôt le titre de l'article là, qui fait sursauter bien les gens, puis dans un contexte électoral, ben
c'est de bonne aloi, vous trouvez. Mais n'empêche que on est dans cette idée que si des armes sont possédées par les policiers, ben les policiers indubitablement vont s'en servir si besoin. Donc ça augmente la violence et que ça augmente la violence surtout envers certaines communautés. Vous êtes un expert sur le profilage racial, la sécurité. Vous pensez quoi par rapport à ça?
Premièrement, la notion que les policiers utilisent des armes à feu d'une façon déraisonnée partout au Canada, ici, c'est vraiment pas la réalité. Okay?
C'est quoi la réalité?
C'est pas. C'est parce qu'on souvent on regarde qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, etc. Puis c'est quoi la. On n'a pas le même contexte ici au Canada au niveau de l'utilisation des armes à feu par les policiers. Moi, j'ai passé tout mon service, j'ai jamais dégonné mon arme à feu contre qui que ce soit. Puis c'est la majorité des gens, c'est pour la majorité des policiers, c'est la même chose. Il faut quand même garder les choses en perspective ici. Oui, je pense que dans le contexte en Amérique du Nord, je pense qu'un policier, généralement parlant, les policiers devraient être armés. OK, encore une fois, est-ce qu'il pourrait y avoir certaines unités dans certains contextes qui seraient désarmées, comme je l'ai mentionné dans les écoles, ou ces communautés de liaison avec un groupe communautaire particulier, etc. Oui, je pense qu'on devrait peut-être regarder ça. Mais lorsqu'on entend un mois passé au niveau des préoccupations des gens, au niveau des crimes violents avec les armes à feu, puis là, on met de l'avant les armées, les policiers. Je pense que ça passe mal au niveau de la population.
Ben oui, puis en même temps, l'argument qu'on nous amène bien souvent dans ces cas-là, c'est l'argument selon lequel il faut rebâtir la confiance avec certaines communautés, la confiance envers la police. Là, d'ailleurs, quand il s'est passé toute cette histoire de l'affaire Camara, la mairesse Plante a dit que les citoyens de Montréal, tous les citoyens de Montréal devraient être capables d'avoir confiance en leurs policiers. Le fait de les désarmer, on amène ça comme une possible solution, mais vous trouvez que ça influencerait pas cet aspect-là de confiance. Ça se fait aussi. Il y a des projets pilotes à Longueuil, là, je pense.
Oui, c'est un bon projet que Longueuil a mis sur pied. Encore une fois, c'est au niveau communautaire. Puis il y a des choses. C'est pas comme les policiers vont patrouiller et puis vont, tu sais, sans armes, etc. Il y a un contexte à l'entour de ça. Je pense que c'est quelque chose qui est normal, puis que n'importe quel service policier serait apte à mettre sur pied. Mais en même temps, écoutez, moi, je travaille aussi avec des communautés, des groupes communautaires, des situations où, justement, des endroits qui sont plus criminalisés qu'ailleurs, où la communauté, souvent, est pratiquement mise ou tenue un otage, tu sais, au niveau de la violence. Puis je vais vous dire, des études qui ont été faites aux États-Unis, puis même partout ailleurs au Canada, dans certaines communautés où il y a un taux de criminalité plus élevé, c'est pas que les gens veulent avoir moins de police, mais ils veulent avoir une police respectueuse. C'est pas la répression du crime que les gens ne veulent pas avoir, mais ils ne veulent pas subir l'oppression des services de police.
Mais ça, on l'entend beaucoup, M. Babineau, puis je veux qu'on en parle un peu, là, la façon de faire de la police autrement. Tout le volet préventif, là, des jeunes policiers qui nous disent que maintenant, c'est très différent, par exemple, qu'avant, que les formations sont différentes. Là, on a appris aussi qu'il y aurait une subvention, là, 45 heures sur le profilage racial. Donc, toutes sortes d'initiatives. La police a changé. Des personnes qui restent pour le définancement de la police, là, qui disent c'est pas à la police de faire de la prévention. Trouvez-vous que c'est le rôle de la police de jouer, si on veut, la carte du communautaire? Là, on fait porter beaucoup de chapeaux aux policiers.
Mm-hmm. Il y a trois. Moi, je dis toujours qu'il y a trois volets que la police ne devrait pas être impliquée. C'est au niveau des sans-abri. Okay, ça, c'est un niveau communautaire. Au niveau des personnes en problème de consommation. Okay, les problèmes qui ont des personnes en consommation, Et puis, troisièmement, des personnes qui ont des problèmes qui sont en crise ou qui ont des problèmes mentaux. OK, ça c'est pas quelque chose où la police devrait être.
Non, mais ils sont les premiers à arriver, donc ils doivent intervenir.
Si on parle d'intervention, on ne parle pas de prévention.
Ouais.
On avait demandé prévention. C'est faut vraiment avoir une balance entre avoir des organismes qui sont proprement étudiés financièrement et avec les ressources nécessaires pour justement faire ce type de prévention-là en ayant accès aux besoins, je dis bien aux besoins, des services policiers pour une intervention où la police a besoin d'intervenir. Mais ça, c'est trois aspects où je pense que j'aurais jamais de débat contre les policiers. Ils ne seront jamais opposés à se retirer de cet aspect-là.
Ouais, puis la devise de la police, c'est quand même protéger et servir. Puis d'en servir, à mon sens, il y a la notion de prévention qui s'applique dans une certaine mesure.
Absolument. Prévention. Du coup, il y a la prévention, il y a la formation, il y a la protection, puis il y a l'application des lois. Ça fait partie des principes du service de police.
Ouais.
Mais malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup, beaucoup d'emphase qui est mise sur l'aspect répressif. Selon moi, souvent les policiers perdent le focus un petit peu, puis on met beaucoup plus d'aspects sur la répression que la prévention, l'éducation, etc.
Bien, en ce sens-là, M. Babineau, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la façon dont on vend la police aux jeunes, c'est-à-dire les personnes qui veulent devenir policiers?
Effectivement. Puis ça va vers une réforme du recrutement, de la sélection. Moi, je dis toujours, ça part de la sélection des candidats, quel type d'individu qu'on va chercher, quel type d'évaluation, de triage qu'on fait au début. Et puis ça poursuit au niveau de la formation, après ça, la supervision. Au niveau des sanctions, s'il y en a lieu, etc., etc. C'est un parcours qui doit être agencé, ça, une chose après l'autre.
Puis, avant de vous laisser aller, là, si je reviens au sujet d'enlever les armes de certains policiers, il y a beaucoup de personnes qui disent non, enlevez pas les armes, mettez-leur des caméras portatives. Ça, est-ce que c'est une bonne idée?
Les caméras portatives, c'est une très bonne idée. Un l'enlève l'autre.
C'est vrai.
Caméras portatives, c'est une très bonne idée d'avoir ça pour, comme je dis, des deux côtés, de la façon où les policiers se protègent contre des fausses accusations qui existent. Il y en a des fausses accusations contre les policiers. Mmh. Puis en même temps, ça protège les citoyens, ça offre une transparence des actions des policiers. On revoit souvent, mais on en a vu un justement cette fin de semaine, là, dans le parc.
Ou intervention musclée, là.
C'est ça. Mais là, on a une perspective de passants qui ont filmé l'intervention. Mm-hmm. Si les policiers, par exemple, dans ce cas-ci, auraient eu des caméras, on aurait eu, beaucoup plus complète perspective de l'intervention. George Floyd, là, les policiers n'auraient pas eu de caméra, puis s'il n'avait pas été filmé tout partout, là, George Floyd, là, il y en a déjà eu des George Floyd, puis ça a passé en dessous du tapis.
Oui, mais ça, en ce sens-là, c'est bien que parfois les citoyens prennent les moyens du bord pour filmer, mais n'empêche, sur les caméras portatives, des études qui ont été faites, puis une notamment où on a ramassé beaucoup de données, où on a dit que les caméras portatives n'ont aucun effet significatif, justement, sur l'utilisation de la force par la police, et même selon les données de cette étude-là, là, l'effet le plus significatif, c'était d'augmenter de 15% la probabilité d'agression violente contre les agents du service de police.
Mmh. Ouais, je pourrais sortir d'autres recherches qui
il y a toujours des études.
Il faut faire attention avec les recherches. Mais au bout de la ligne, là, c'est la perception des gens.
C'est toujours là.
Lorsqu'on parle de la confiance des services de police parmi la population, c'est ça qu'il faut augmenter. Si les gens, je pense que la majorité des gens sont raisonnables, la majorité des policiers sont raisonnables, et puis si on leur montre une image complète d'une certaine situation, je pense que les gens ont assez de bon sens. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas convaincre d'un côté ou de l'autre.
Oui, puis ils ne comprendront jamais rien, ni d'un bord comme de l'autre.
On ne perd pas notre temps avec ça. Mais la majorité des gens sont raisonnables, mais c'est ça. Il faut augmenter la confiance des gens en leur service de police. Puis les gens veulent avoir confiance en leur service de police. Oubliez pas ça jamais.
Alain Babineau, merci. Monsieur Babineau, qui est agent retraité de la GRC, on se parlait de Projet Montréal qui a proposé durant son congrès de désarmer une partie des policiers du SPVM. Et j'insiste vraiment, là, c'est une partie seulement. Ce n'est pas question là, d'enlever les armes au SPVM.